Chers amis, permettez-moi de vous saluer pour le début du cours de cette année, du cours d'iconologie, de théologie de l'icône. Vous savez sans doute que nous avons eu un cours l'année passée et nous allons continuer cette année. Et la première chose que je veux dire, c'était à cause des circonstances particulières de ma petite vie à moi, que pendant cette année passée, il n'y avait pas d'image, tout simplement parce que c'était obligé de déménager, etc. Mais cette année, il y aura des images, mais pas encore aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le cours d'aujourd'hui, j'ai voulu le dédier à la mémoire de mon maître, Leonid Alexandrovich Ouspensky, dont vous avez, je pense, beaucoup d'entre vous ont entendu parler, et nous allons voir tout de suite un peu, regarder de plus près ce personnage exceptionnel et merveilleux dans l'histoire de l'Église orthodoxe du XXe siècle. Pourquoi je commence cette année, et je lui dédie le premier cours, c'est parce que il y a ces jours-ci, en fait, ces jours-ci, en décembre, dans un mois, il y aura le 30e anniversaire de la naissance au ciel de Leonid Ouspensky. Et c'est une date qui incite à la réflexion, qui montre, qui permet de voir maintenant avec une certaine distance cette œuvre qui est, j'ose le dire, monumentale. Monumentale parce que Leonid, comme nous verrons, était à la fois un véritable iconographe et fresquiste et aussi, en même temps, un véritable théologien de l'icône. Et même, il faut aller plus loin, on peut dire qu'il n'a pas été un théologien de l'icône, il faut dire que c'est lui qui a créé cette matière. Parce que, dans ma petite vie à moi, à un moment donné, quand il était encore en vie, la direction de l'Institut Saint-Serge s'est adressée à moi en me disant, c'était à l'époque, c'était le père Alexis Knyazev, paix à son âme, qui me disait que, père Nicolas, nous savons que vous êtes élève de Leonid Ouspensky, ça fait longtemps que je voudrais qu'on enseigne la théologie de l'icône à Saint-Serge, donc sachez que je vous invite de créer cette matière dans le cadre de notre institut. Évidemment, j'étais enchanté de cette invitation. Leonid Alexandrovich aussi était très content. Et j'ai donc commencé à enseigner, en fait, sa matière, selon tout ce que j'ai pu apprendre auprès de lui. Et nous savons que maintenant, dans plusieurs institutions académiques de l'Église orthodoxe, par exemple à l'Institut de Saint-Tichon à Moscou, à Saint-Vladimir, à New York, où moi-même j'ai enseigné pendant 2 ans de suite, justement grâce à l'invitation de Meindorf, j'ai enseigné de l'iconologie. Et puis il y a d'autres endroits, bien sûr, mais j'ai amené tout à l'heure, je vais les montrer plus en détail, les livres essentiels de Leonid. Et nous pouvons dire que nous avons cette chance de pouvoir lire ses œuvres théologiques et de regarder, essentiellement, je pense quand même, dans des églises parisiennes, comme par exemple l'église des Trois Saints Hiérarques, rue Petel à Paris, mais aussi à Saint-Victor et dans d'autres églises, il y a des icônes de Léonide qui évidemment sont dans leur genre tout à fait unique. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui nous parlons d'Ouspensky et dès l'année de la... Dans un mois, nous allons commencer des cours qui vont nous introduire dans cette matière que lui, justement, avait créée. Je voudrais il y a un mot pour ça que j'ai oublié pour le moment. C'est sous le titre d'une communication, on peut donner une citation, une autorité. Et l'autorité que moi je veux citer, c'est le père Georges Florovski avec Vladimir Lossky. D'après Ouspensky, les deux plus grands théologiens russes orthodoxes, donc Florovski disait à un endroit où il parlait, je pense, aussi des icônes, il dit « Ceux qui, dans la mesure de leur humilité devant la vérité, reçoivent le don d'exprimer la conscience catholique de l'Église, nous les appelons Père et Maître. » Donc, moi je vais vous parler d'un Père et d'un Maître de la théologie de l'icône. Il est vrai que, hélas, il y a déjà 30 ans, que juste quelques jours avant le début de l'année jubilaire du millénaire du baptême de la Russie, décéda dans son modeste appartement parisien, à l'âge de 85 ans, l'artisan principal de la Renaissance contemporaine de l'icône orthodoxe, Léonide Alexandrovitch Ouspensky. Les peintres et les restaurateurs d'icônes perdaient leur maître unanimement reconnu et vénéré. Et les théologiens, le fondateur d'une discipline théologique nouvelle, qu'il a été amené à créer, vu la nécessité pressante d'expliquer aux non-orthodoxes et aux orthodoxes, je dis bien et aux orthodoxes, le sens de l'image spécifiquement chrétienne par une véritable théologie de l'icône. Depuis, eux tous, les peintres et les théologiens, ici et en Russie, je veux dire ici à Paris, mais aussi en Russie et ailleurs encore, se trouvaient privés du maître paternel reconnu par tous comme celui qui non seulement semblait incarner la tradition, mais qui avait su aussi leur prouver son actualité brûlante. Léonide Alexandrovitch Ouspensky est né le 8 août 1902 dans un village de la région de Voronezh en Russie du Nord. Il poursuit ses études secondaires jusqu'en 1917, se considérant comme athée, convaincu, il participe aux actions des lycéens révolutionnaires et quitte à l'âge de 16 ans sa famille pour s'engager dans la guerre civile du côté des Rouges. Le 20 juin 1920, sur le front du Caucase, lors de la bataille qui vit l'anéantissement de la division de cavalerie de Jouba par le général Wrangel, la monture, c'est-à-dire le cheval, de Léonide Alexandrovitch est abattue en plein galop de charge. Resté indemne, il est aussitôt fait prisonnier par l'armée blanche et condamné à mort. À la toute dernière minute, l'exécution est suspendue et il est enrôlé dans l'artillerie blanche qu'il suit jusqu'à la démobilisation de Gallipoli. Quelques mois plus tard, il passe en Bulgarie où il travaille comme mineur dans des conditions extrêmement dures. Il a échappé à la mort plusieurs fois. En 1926, il signe un contrat avec les usines métallurgiques Schneider du Creusot et vient s'installer en France. Lorsque, en 1929, l'Académie russe de peinture, fondée par Tatiana Lvovna Tolstoï, la fille de Léon Tolstoï, ouvre ses portes à Paris, Leonid Alexandrovitch y voit une possibilité de réaliser enfin son désir de se consacrer à la peinture. Il s'inscrit et travaille. Il s'inscrit et travaille pendant un an avec les professeurs Grigoriev, Dobouzhinsky et Miliotti. Après la fermeture de l'Académie russe, le peintre, parce qu'ils ont eu une crise financière, le peintre Bondikov reçoit une dizaine de jeunes artistes peintres, dont parmi lesquels Ouspensky, dans son atelier. C'est là qu'il fait la connaissance de sa première épouse, Vera Ivanovna Budanova. En automne 1931, le groupe qui vient de louer un atelier impasse du Rouet, dont le 14e, c'est tout près d'Alésia. Il est rejoint par Georges Krug, le futur iconographe et moine Grégoire. Ouspensky et Krug, de 5 ans, sont cadets, se lient d'une amitié profonde et travaillent beaucoup ensemble. Les études de peinture ont dû avancer avec le plus grand succès, puisque à peine 3 ans après son inscription à l'Académie russe, Leonid Alexandrovitch prend part à la grande exposition des peintres russes en France organisée par la galerie La Renaissance. Cette exposition, à laquelle participent des célébrités comme Léon Bax, Albert Benoît, Dimitri Siliadski qui avait peint l'église Saint-Serge, André Lanskoy qui était un abstractionniste, Gantcharov, Michel Larionov, Soutine, et parmi les sculpteurs Paul Trubetskoy et Osip Zadkin, ils sont tous, cette exposition donc, est considérée avec celle de Bruxelles de la même époque comme la manifestation majeure de l'art figuratif russe en Russie entre les deux guerres. Au début de son amitié avec Georges Krug, Leonid Alexandrovitch est, selon ses propres paroles, encore loin de l'Église. Mais ses recherches artistiques le conduisent à s'intéresser à l'ancienne Égypte et son art hiérarchique, puis à la peinture et à la sculpture romaine. De là, il n'y avait plus qu'un pas jusqu'à l'art de l'icône. Sans doute fut-il encouragé à franchir ce pas par l'enthousiasme religieux de Georges Krug, membre dès 1933 de la confrérie Saint-Photios. Au début de l'année 34, il commence à s'intéresser à la peinture d'icônes. En 1935, il participe déjà un peu à la peinture des deux iconostases commandées pour la première église de la rue Petel. Suivent les fresques, les peintures murales, à la chapelle de la ferme russe de Gros Louvre à Montfort-l'Amaury en 1937. À cette époque, Leonid Ouspensky et Georges Krug travaillent beaucoup ensemble et sont animés d'une ferveur particulière. Tout en concentrant leurs recherches sur la technique et le style de la grande époque des 14e et 15e siècles, ils sont conscients que toute approche purement artistique et esthétique serait insuffisante et qu'il faut surtout retrouver la tradition vivante. Pendant l'occupation allemande, pour éviter d'être envoyé de force au travail en Allemagne, Leonid Alexandrovitch entre dans la clandestinité. À cette époque, en 1942, il épouse en seconde noces Lydia Alexandrovna Miakhova-Savinkova. Son oncle était le célèbre terroriste, Savinkov, qui est connu au 20e siècle en Russie. Donc, c'était l'oncle de de l'épouse de Léonie Delsage. Donc, dès la libération de Paris, il retrouve ses amis de la confrérie Saint-Photius, dont il était devenu membre actif tout au début de la guerre. Lorsque la confrérie fonde en automne 1944 l'Institut orthodoxe français Saint-Denis, avec le père Eugraph Kavalevski comme recteur et Vladimir Roski comme doyen de la faculté de théologie, Leonid Alexandrovitch y devient, à l'âge de 44 ans, professeur d'iconologie. Et puis, évidemment, il continue à peindre des icônes, ça va de soi. Depuis lors, et jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 43 ans, Leonid Alexandrovitch n'a cessé d'enseigner aussi bien la théologie de l'icône, dont il est un des initiateurs à l'époque moderne, que la technique de l'iconographie et de la restauration des icônes anciennes. Au cours de ces 43 années, Leonid Alexandrovitch reçoit des élèves du monde entier, dont certains s'en iront fonder des écoles dans leur pays d'origine. Parmi les plus importantes de ces écoles, il faut nommer celle de Finlande, où il s'est même rendu plus tard pour parler de l'icône orthodoxe. C'est aussi l'école d'Égypte auprès du patriarche copte, d'Angleterre, d'Inde du Sud auprès de l'église de Saint Thomas dans l'état de Kerala et en Amérique du Nord. En 1948, lorsqu'il enseigne en cours encore à l'Institut Saint-Denis, sort sa première publication, l'icône « Quelques mots sur son sens dogmatique ». À cause de mes déménagements récents, je n'ai pas pu retrouver un exemplaire, c'est un petit livre, mais c'est en même temps un très grand livre. On pouvait lire dans une revue bénédictine de l'époque que ce petit livre vaut son poids d'or. Dit que c'est cette publication bénédictine de l'époque, donc de 1948. En 1948, lorsqu'il enseigne date, c'était cette question de la première publication qui s'appelait l'icône, quelques mots sur son sens dogmatique. 4 ans plus tard, ce texte paraît à Athènes, traduit par le célèbre peintre d'icônes Fotios Kondoglou lui-même. L'année 52 sera surtout marquée pour Leonid Uspensky par la parution aux éditions Urskraf à Berne de l'important ouvrage écrit en collaboration avec Vladimir Roski, ouvrage qui s'appelle en anglais « The Meaning of Icons » et en allemand « Der Sinn der Ikone ». J'ai ici une édition française que je voulais vous montrer. D'abord, vous voyez que c'est un grand livre, c'est un livre qui a d'excellentes illustrations et c'est une édition française qui est parue, hélas, déjà après le décès de Leonid Alexandrovitch. Je pense que je vais vous dire l'année exacte. C'est paru donc en 2007. Et The Meaning of Icons, en français, évidemment, ça se dit le sens des icônes. Et tout dans ce livre, il y a de merveilleuses reproductions. Et il y a surtout deux introductions, une par Vladimir Roski et l'autre par Leonid. L'importance et la nouveauté de cet ouvrage résident dans son approche de l'icône et de l'art sacré en général. Il ne s'agit ni d'un travail archéologique, ni d'histoire de l'art, mais d'une tentative de situer l'image dans l'ensemble de la tradition orthodoxe et de comprendre sa spécificité à la seule lumière de cette tradition. Ce n'est donc pas un hasard si le livre commence par un essai de Vladimir Roski sur la tradition et les traditions, suivi de l'étude de Leonid Alexandrovitch, qui donnera le titre à l'ensemble de l'ouvrage, Le sens et le langage des icônes. À ces deux textes fondamentaux s'ajoute toujours dans le même livre un exposé sur la technique traditionnelle de la peinture d'icônes et une série de 60 chapitres qui commentent d'un point de vue historique, théologique et liturgique l'iconostase, la Sainte Croix, les icônes principales du Christ et de la Mère de Dieu et des différents ordres de saints ainsi que le cycle complet des icônes festives. C'est un trésor ce livre. Des icônes festives, le tout illustré par d'excellentes reproductions. Voici ce que dit de cet ouvrage l'un des plus grands théologiens orthodoxes de notre siècle, le père Georges Florowski. Ce livre est un véritable exploit scientifique. Peut-être est-ce aussi la première tentative d'étudier les icônes en tant que témoignage de la foi. En tant que témoignage de la foi. Florowski dixit. Mais Leonid Alexandrovitch ne se contente pas du succès de cette publication qui fonde sa renommée internationale de théologien de l'icône. Aidé par son épouse, Lydia Alexandrovna, il se met à rédiger systématiquement ses cours d'iconologie. Un abrégé de l'ensemble de ses cours paraît en traduction française sous le titre « Essai sur la théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe » et tome 1 aux éditions de l'Exarchat du Patriarcat de Moscou à Paris, donc rue Péclet. Dans l'avant-propos, l'auteur explique qu'il développe ici les thèses brièvement formulées dans « Le Meaning of Icons ». Puis il dit « Ce cours qui suit dans ses grandes lignes un plan historique essaie de définir la place et le rôle de l'art dans l'Église et de le présenter à la lumière de la liturgie, ses décisions conciliaires et des écrits patristiques. Étant donné le grand intérêt qui existe actuellement pour l'icône, ce cours est publié afin de faire connaître à ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'est l'icône, l'enseignement orthodoxe sur l'art sacré et aussi l'expression dans l'art sacré de la doctrine et de l'expérience spirituelle orthodoxe. » Fin de citation. Enfin, en 1980 sort la théologie de l'icône, aboutissement et somme de toutes ces recherches théologiques. À la fois référence qui fait autorité et source d'inspiration, ce livre ne vieillira pas, car il sera de plus en plus reconnu comme l'expression de la tradition et ne peut être comparé à ce titre aux deux autres classiques de la théologie russe contemporaine, les voies de la théologie russe, du père Georges Florowski, qu'il considérait le père Georges Florowski et la théologie mystique, j'ai pas de livre ici, le livre, mais tout le monde le connaît, la théologie mystique de l'Église d'Orient de Vladimir Voski. Tous deux, ces deux livres, la théologie de l'icône et la théologie mystique, tous deux d'ailleurs écrits comme les voies de la théologie russe de Florowski à Paris. Leonid Uspensky nous a quittés dans la nuit du 11 au 12 décembre. Donc, dans un mois, ça fera vraiment 30 ans. 5 mois après avoir publié l'étude intitulée « Vers l'unité », qu'il considérait comme le dernier chapitre de sa théologie de l'icône et qui constitue, selon ses propres paroles, son testament spirituel. Vu le peu de temps dont nous disposons, je me limiterai ici à ne dégager que deux axes de l'actualité de l'iconologie de Leonid Ouspensky. Le premier axe que je voudrais évoquer pourrait être désigné comme méthodologique. Leonid Alexandrovitch n'a jamais laissé planer de doute sur l'angle sous lequel il entendait aborder son sujet. Il l'a dit et redit jusque dans l'introduction de son œuvre maîtresse, La théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe. Le but de cet ouvrage est de faire connaître l'évolution de l'icône et de son contenu dans une perspective historique. Il partageait la conviction du père Georges Swarovski qu'il tenait avec le patriarche Serge de Moscou et Vladimir Lossky, son ami, pour le plus grand théologien orthodoxe contemporain, qu'une théologie véritablement ecclésiale ne pouvait être élaborée que selon la méthode historique ou génétique. Cette conviction lui inspira le plan de cet ouvrage qui décrit en 17 chapitres de la genèse de l'image chrétienne jusqu'à l'icône dans le monde aujourd'hui, ou le monde d'aujourd'hui, le cheminement de l'image spécifique que l'Église a elle-même élaborée au cours de son histoire. Image fondée sur la confession du Dieu devenu homme, témoignage de son incarnation véritable et non illusoire. La divine humanité, écrit Swarovski dans ses voies de la théologie russe, est un fait de l'histoire et non seulement un postulat de la foi. Le théologien doit découvrir et revivre l'histoire de l'Église comme processus divino-humain. La formation et l'édification du corps du Christ. Le christianisme est tout dans l'histoire et tout à propos de l'histoire. La théologie elle-même ne peut être justifiée comme une tâche ecclésiale et créatrice que dans la perspective historique. La sensibilité historique de la pensée russe, aiguisée par les épreuves qu'elle a traversées, est le meilleur gage du renouveau de la théologie, du renouveau tant attendu. Cet appel formulé par Swarovski en 1937 a été entendu. Un demi-siècle plus tard, nous pouvons constater que Leonid Alexandrovitch Ouspensky a été le maître d'œuvre de ce renouveau en ce qui concerne l'icône. Le fondement de sa méthode de critique historique, Leonid Alexandrovitch l'a trouvé dans l'analogie parole-image. Parole-image. Analogie établie par le père du 7e concile œcuménique dès sa première publication de son premier écrit qui était ces fameux quelques mots sur les icônes orthodoxes. Donc, publié en 48, dans cet premier écrit, il déclare « Pour l'Église orthodoxe, l'image aussi bien que la parole est un langage exprimant ses dogmes et son enseignement. » Et 4 ans plus tard, il ajoute dans « The Meaning of Icons » en citant les pères de Nicée II, par ces deux moyens qui s'accompagnent l'un l'autre, la parole et l'image, nous recevons la connaissance des mêmes réalités, d'où la possibilité d'une approche critique. De même que la pensée dans le domaine de la religion n'a pas toujours été à la hauteur de la théologie, de même, la création artistique a, hélas, elle non plus, pas toujours été à la hauteur de l'iconographie authentique. On ne peut considérer toute image, même s'il est ancienne et même éventuellement belle, comme une autorité automatiquement infaillible. Elle peut tromper au lieu d'enseigner. Autrement dit, l'enseignement de l'Église peut être faussé par une image, ou par l'image, on pourrait dire, tout autant que par la parole. Il faudrait vraiment toujours se rappeler de ça. Nous avons, nous regardons nos icônes, nos églises, les icônes du 19e siècle qui sont du Saint-Sulpice, etc. C'est tout ça, c'est des déformations qui sont aussi nuisibles qu'une hérésie verbale. Donc, on ne peut considérer toute image, même si elle est ancienne et très belle, comme une autorité infaillible. Une telle image peut correspondre à l'enseignement de l'Église ou ne pas lui correspondre. Elle peut tromper au lieu d'enseigner. Autrement dit, l'enseignement de l'Église peut être faussé par l'image tout autant que par la parole. On pourrait donner beaucoup d'exemples du temps proprement patristique qu'avait développé l'Anneke de Sange, de discerner si telle image, tel programme iconographique ou telle affirmation de la science profane sur l'histoire de l'art sacré correspondait à l'enseignement de l'Église ou non. Pour illustrer ce don, j'ai choisi un exemple qui me semble particulièrement probant. Et que lui-même a formulé ainsi. Voilà comment il formule sa problématique ici. Faut-il ou ne faut-il pas représenter la Mère de Dieu dans les icônes de la Pentecôte? Plus d'un demi-siècle plus tard, ou on pourrait dire bien que cela fasse plus d'un demi-siècle, que cet article qui a été publié dans les années 60, cet article qui apporte une réponse claire et nette à cette question. Donc, s'il faut représenter ou non la Mère de Dieu dans l'icône de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, qui est notre, et comme tout le monde sait, notre icône de la Pentecôte, n'est-ce pas? Alors, voyons donc ce que dit Léonie de Lixange. Et puisque, non, avant je voulais dire que ça fait maintenant quand même presque un demi-siècle que cette étude a été publiée à... Mais la portée proprement théologique du problème continue à échapper à la presque totalité de nos chers théologiens orthodoxes. C'est comme s'il n'avait jamais rien dit là-dessus. Donc, voyons ce que Léonie d'Alexandre dit à ce propos. La discussion, dit-il, sur la représentation de la Mère de Dieu dans les icônes de la Pentecôte est très significative. Elle montre que les fidèles ont oublié peu à peu le contenu dogmatique de l'image sacrée. C'est ça qui est d'abord le contenu dogmatique de l'image sacrée pour aboutir à un adogmatisme sentimental qui caractérise notre époque et ne repose que sur des sentiments entre guillemets, elle montre que les fidèles ont oublié peu à peu le contenu dogmatique de l'image sacrée pour aboutir à l'adogmatisme sentimental qui caractérise notre époque et ne repose que sur des sentiments religieux et des états d'âme individuels. C'est un peu raide, mais bon. C'est quand même la vérité. À la fin des années 50, les discussions sur cette question avaient été particulièrement vives parmi les membres de l'association d'icônes, qui d'ailleurs existe toujours, et je me suis très fier d'être jusqu'à ce jour membre de cette association. qui regroupait à l'époque la plupart des iconographes russes en France. Bien que Léonid Alexandrovitch ne fût plus à ce moment-là membre actif de l'association, il avait été consulté par les deux parties, c'est-à-dire les pros et les contres, n'est-ce pas, de la présence de la Mère de Dieu dans l'icône de la Pentecôte, par les deux parties et considérait son étude comme une tentative de clarification et de réponse à des questions concrètes soulevées au cours des discussions. Certains partisans de la représentation de la Vierge parmi les apôtres développèrent même des considérations d'ordre apologétique, excusez du peu. Son absence pourrait être l'absence de la Mère de Dieu dans l'icône de la Pentecôte. Son absence dans cette icône pourrait être interprétée dans un sens catholique romain, puisque l'Église latine enseigne que la Vierge était exempte du péché originel par la vertu de la fameuse conception immaculée, ce qui ne signifierait que l'économie du salut, et dont notamment la Pentecôte serait pour elle superflue pour la Mère de Dieu. En effet, paraît concéder notre auteur, c'est-à-dire Ouspensky, en se fondant sur ces considérations, il semblerait que pour être en accord avec l'enseignement orthodoxe, il conviendrait de représenter la Vierge sur les icônes de la Pentecôte. Par contre, l'enseignement romain devrait entraîner son absence. Mais, en fait, c'est le contraire qui a lieu. La Mère de Dieu ne fut pas représentée dans les icônes orthodoxes jusqu'à la fin du XVIe, début XVIIe siècle, c'est-à-dire le début de la décadence, pardonnez-moi. Alors que les représentations romaines catholiques figurent toujours à partir du Moyen-Âge. Cette différence soulève, selon Ouspensky, une question d'ordre théologique qu'il formule ainsi. Pourquoi donc l'icône de la descente du Saint-Esprit cesse-t-elle, quand la Vierge y est présente, d'être une icône pentecostale? C'est sérieux. Elle cesse d'être une icône pentecostale. Et il répond, dans l'Ascension, la Vierge est représentée parce que l'icône de cette fête est une icône de l'Église et de sa plénitude, et dans la représentation de son chef, Jésus-Christ, de sa mère, des apôtres et des anges. Par contre, dans l'icône de la Pentecôte, qui est également une icône de l'Église, la plénitude est précisément dans la représentation des seuls apôtres sans personne à la tête de leur cercle. En Occident, ce sera toujours Pierre qui sera au milieu, qui préside évidemment. Ici, il y a la place au milieu est vide. La Mère de Dieu en est absente, non pas parce qu'elle ne s'est pas trouvée au Cénacle, pas à cause de ça, puisque ce n'est pas vrai, mais parce que sa présence ne correspond pas à ce que l'Église entend nous révéler par l'icône, par l'image et l'icône de la liturgie de la Pentecôte. N'oublions pas que parmi les grandes fêtes liturgiques, la Pentecôte a une signification toute particulière, puisqu'elle célèbre le début de l'économie personnelle du Saint-Esprit. Comme le dit Saint Grégoire de Nazianze, par l'Ascension se sont terminées les œuvres du Christ dans la chair, liées à la Vierge, la naissance, la crèche. Tandis que le 50e jour après Pâques, nous célébrons la Pentecôte et la venue de l'Esprit. Léonid Ouspensky reprend à son compte cette distinction entre les deux économies et l'applique à l'iconographie. L'Église est fondée sur la double venue dans le monde du Verbe et de l'Esprit. L'économie de la deuxième personne divine et celle de la troisième ont chacune leur caractère et leur sens propre. Elles sont inséparables, mais ne doivent pas non plus être confondues. La maternité divine fait, la maternité divine fait de la mère de Dieu une exception, non pas une norme. Or, l'icône de la Pentecôte est une image de l'Église avec ses sacrements, son enseignement, ses institutions et sa sainteté, c'est-à-dire précisément des normes que l'Église nous propose. C'est que les apôtres ne sont pas seulement des personnes humaines qui ont reçu le don de déification, mais aussi les continuateurs de l'œuvre du Christ en transmettant leur pouvoir à d'autres. C'est par eux que commence le flux ininterrompu de la grâce de l'Esprit-Saint qui abreuve le corps de l'Église. C'est pourquoi ce n'est pas sur la Mère de Dieu, mais sur les apôtres que se fonde l'Église terrestre. Ce n'est pas de la Vierge qu'elle reçoit son enseignement et ses sacrements, mais des apôtres. Et le credo caractérise l'Église comme apostolique et non pas théotocale. La présence de la Vierge efface la limite entre l'économie du Fils et celle du Saint-Esprit. Elle confond ce qui concerne la nature avec ce qui se rapporte à la personne et prive ainsi cette icône de son message unique. Par contre, lorsque, comme il se doit, la place centrale au milieu des apôtres reste vide, le sens ecclésiologique de l'icône est pleinement manifesté, car il n'y a plus de personnages secondaires. Grâce à la perspective inversée, toutes les personnes représentées se trouvent au même plan et sont égales en honneur. Il n'y a aucun personnage central groupant les autres autour de lui ou à ses côtés. Si nous nous souvenons que l'Église orthodoxe affirme l'égalité des apôtres en dignité, en pouvoir et en grâce, nous devons considérer cette iconographie non comme le fruit d'un malentendu, comme un grand savant a dit un jour, donc non pas comme un malentendu, mais bien comme une trouvaille géniale exprimant le plus exactement possible le contenu à la fois profond et multiple de la Pentecôte. Le deuxième axe de la pensée de Leonid Ouspensky, que je voudrais brièvement évoquer ici, ne concerne plus la méthode, mais ce qui, dans toute œuvre originale, l'anime et la complète, c'est-à-dire l'intuition. Cette intuition, au sens fort du terme, dont Swarovski disait qu'elle était plus importante encore que l'érudition pour rétablir l'esprit patristique de la démarche, dans la démarche du théologien. Dès le début de ses recherches sur l'art sacré, Leonid Ouspensky s'intéressa passionnément au rapport entre l'art chrétien d'Orient et d'Occident. La sensibilité et l'ouverture à l'Occident et à son destin, aussi bien avant qu'après le schisme latin, caractérisèrent la confrérie Saint-Photios qu'il avait rejoint quelques années avant la guerre. Étudier les rapports, observer les divergences, tout cela était intéressant et important, mais toutefois ne lui suffisait pas. Il voulait remonter aux sources des différends et découvrir leur cause ultime. Cette cause ne pouvait être, selon lui, que de nature théologique, évidemment. Chaque fois qu'il abordait le sujet de la rupture gothique dans l'art occidental, c'est une très belle formule, la rupture gothique dans l'art occidental. Il disait, Ouspensky disait, ressentir fortement combien son ami Lossky avait eu raison de déclarer la question de la procession du Saint-Esprit a été l'unique raison dogmatique de la séparation entre l'Orient et l'Occident. Toutes les autres divergences qui, historiquement, ont accompagné ou suivi la première controverse sur le filioque, dans la mesure où elles ont quelques portées doctrinales, se rattachent plus ou moins directement à cette détermination primordiale. Mais, ajoute-t-il, il ne suffit pas d'être personnellement certain que cela s'applique aussi aux divergences dans l'art. Pour convaincre, il faut le démontrer. Connaissant son extrême modestie concernant ses propres travaux, je doute que Léonide Alexandre considérait la démonstration apportée de son ouvrage ultime Vers l'unité, point d'interrogation, comme satisfaisant. Tout simplement parce qu'il voulait toujours en continuer à creuser et ne cessait de répéter « Nous ne faisons que commencer, nous ne sommes qu'au début du vrai travail ». Par contre, même les plus critiques et les plus réservés ne pourront nier que dans cet ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage « Vers l'unité » avec un grand signe d'interrogation, donc que dans cet ouvrage « Vers l'unité », il a réussi à poser des jalons à la fois indispensables et incontournables pour tous ceux qui voudraient poursuivre des recherches dont il était l'un des rares à avoir pu mesurer l'importance et que lui-même aurait passionnément aimé pousser plus loin encore. Tout d'abord, on va vers la fin de notre communication. Tout d'abord, Léonide Alexandre rappelle que la victoire sur l'iconoclasme fut le fruit d'efforts conjugués de l'Église de Rome et des patriarcats orientaux, Rome et les patriarcats. C'est par l'Orient et l'Occident ensemble que fut proclamé le dogme de la vénération des saintes icônes, scellé par le sang des martyrs et des confesseurs. Puis, Ouspenski s'interroge. Mais comment a-t-il pu arriver qu'après l'iconoclasme, deux arts apparurent dans le christianisme, la même révélation étant reçue de façon à tel point différente que son expression dans l'art s'avéra contradictoire. Pour Léonide Alexandre, les livres carolins qui accusent Nicée II d'avoir à la fin décrété l'adoration des images et exclu pour Léonide Alexandre, les livres carolins qui accusent Nicée II d'avoir à la fois décrété l'adoration des images et c'est l'accusation des livres carolins. Ils accusent donc aussi Nicée II d'avoir exclu le filioque de Credo. Évidemment, on sait que c'est absolument absurde, mais c'était, à l'époque, c'était tout un argument très sérieux chez les théologiens francs, de la cour de Charlemagne, par exemple, à Aix-la-Chapelle. Alors, donc, ces deux reproches, l'adoration des images et l'exclusion du filioque du credo marque le point de départ d'un chemin qui petit à petit éloignera l'art de la tradition, puis l'en détachera complètement. L'insertion, dixit Ouspenski, arbitraire du filioque dans le dogme trinitaire rompit l'unité de la foi. Parce qu'elle fausse la confession de l'Esprit-Saint, cette formule porte en elle comme conséquence inévitable d'autres violations de l'unité. Les confessions occidentales virent apparaître une doctrine qui n'exprime pas les présupposés dogmatiques décisifs pour la définition du 7e Concile œcuménique concernant les images. Mais quelles sont donc ces présupposées décisives pour la définition conciliaire concernant l'image auquel notre auteur se réfère ici. Pour autant que je puisse en juger, l'année d'Alexandre se réfère ici essentiellement aux deux présupposés qu'il a toujours considérés comme décisifs pour la juste compréhension de l'Église orthodoxe. De l'icône, pardon, pour la juste compréhension de l'icône orthodoxe. Le mystère, d'abord, le mystère de la personne, et deuxièmement, la déification de la créature. Ce miracle de l'union entre le créé et l'incréé qui se réalise dans l'Église. Voyons d'abord le premier point. Comme l'a montré Vladimir Voski, la triadologie filio-Christ peut être définie comme une prééminence de l'unité naturelle sur la trinité personnelle, une primauté ontologique de l'essence sur les hypostases. En définitive, on n'arrive pas à distinguer entre elles les trois hypostases sans les confondre, d'une manière ou d'une autre, avec l'essence. En général, l'origine des personnes dans la Trinité est impersonnelle, ayant pour fondement réel l'essence une, différenciée par des relations internes. C'est fin de citation de Loski. Mais, enchaîne Léonie d'Alexandre, du moment que dans la confession de la Sainte Trinité, seule la divinité, c'est-à-dire sa nature, est absolue et que les hypostases ne sont que des relations subsistantes en son sein, la trinité des personnes devient relative. Or, c'est précisément la personne qui est le mystère fondamental de la révélation chrétienne. Cependant, selon Leonid Uspensky, c'est justement cette notion de personne, notion clé tant pour le dogme de Chalcédoine que pour celui de la vénération des icônes, qui est comme estampée dans la théologie romaine à cause de l'amoindrissement du Saint-Esprit au sein de la Trinité. Par conséquent, l'image personnelle du Christ, qui seul peut témoigner de l'incarnation de l'hypostase divine, perd elle aussi sa signification en tant que témoin et témoignage unique. Ceci est illustré tout d'abord par le fait que l'Occident n'a jamais accepté le canon 82 du concile Quirinsexte, pour rappeler qu'il dit qu'il vaut, on ne va plus représenter le Christ comme agneau parce que c'est une préfiguration, maintenant il faut le représenter en tant qu'homme. Comme conséquence, la salvatrice de l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc le concile Quirinsexte, dans ce sens-là, il le dit toujours, il a toujours dit que le canon 82 de ce concile est un des pas décisifs dans l'élaboration de la théologie de l'icône. Il est toujours classé très haut. Et puis, généralement parlant, par cette insensibilité étonnante à la différence fondamentale entre l'image de l'incarnation et de celle de ses préfigurations vétératistomentaires, et donc nota bene de l'agneau dont il est question dans le canon que nous venons de mentionner. Le deuxième présupposé, et le dernier, décisif du dogme de la vénération des icônes, compromis par le filioque, concerne la déification de la créature. Pour les orthodoxes, les énergies manifestatrices de Dieu ne brisent pas son unité. Pas son unité, non. La même monarchie du Père, qui est à la cause des hypostases consubstantielles du Fils et du Saint-Esprit, préside à la manifestation extérieure, ad extra, de l'unité trinitaire. En revanche, à cause du filioquisme définitivement adopté et explicité par le système scolastique, il deviendra, comme le remarque Vladimir Loski, impossible pour les théologiens catholiques romains d'admettre la manifestation énergétique de la Trinité sans porter atteinte à la simplicité divine. On dira de l'essence divine, rien que des effets créés. Toute possibilité de déification est ainsi littéralement sapée à la racine, n'étant envisagé ni dans la dogmatique, ni dans la réalité vécue de l'Église, il est exclu qu'elle ait pu inspirer son âme. S'étant développé à partir de la scolastique, constate Léonide, l'art religieux de l'Occident s'est avéré incapable de manifester la révélation néo-testamentaire, incapable d'exprimer le dessein du Créateur concernant sa création. La communion de l'homme à la vie trinitaire, le miracle de la récréation de l'homme et du monde, se révèle irréalisable. Le rapport entre le divin et l'humain ne peut être compris ici que comme une certaine coordination et non comme une périchorèse. Une compénétration mutuelle. Autrement dit, la grâce créée peut améliorer la nature de l'homme, améliorer, mais ne le transfigure pas, ne le fait pas communier à l'être incréé de la Sainte Trinité. Née du filioquisme, la doctrine de la grâce créée place un obstacle sur les voies de la ressemblance de l'homme avec son prototype. Les artistes de l'Occident, comme les théologiens occidentaux, devront renoncer à la déification et en cela, ils seront très conséquents avec les prémices de leur triadologie. Ainsi, un vice introduit dans le dogme trinitaire est donc aussi dont l'économie du Saint-Esprit amène-t-il l'art religieux à son état actuel, à l'image du vide qui n'a plus rien à voir ni avec le dogme du Septième Concile, ni avec l'anthropologie chrétienne elle-même. Ces paroles, chers amis, paraîtront dures seulement à ceux qui n'ont pas connu ou n'ont pas compris Leonid Uspensky. Son seul souci était la vérité qui sauve. Et il assumait la difficulté de ce témoignage. À cet égard, je vous prie, on peut dire de lui, tout ceci, il a écrit avec son sang. Je vous remercie pour votre attention.